Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. À côté de moi, Nicolas et Catherine, bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Salut.
Voilà, une petite demi-heure pour épingler la scène bruxelloise. L'émission se fait en direct le mercredi soir 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. Alors, l'émission de ce soir, hein, si on doit faire deux thèmes, c'est travail et amour. Ça ne s'invente pas, des fois ça fait un peu cloche, mais en tout cas c'est ce qui nous concerne quasi au quotidien tout le monde. On ira faire un tour du côté du Théâtre de la Vie pour le réserviste, mis en scène par Antoine Lobin et son acolyte, hein, l'écrivain Thomas Depreyck. On ira faire un tour au Carthago d'Alain Daes, une belle salle du côté d'Anderlecht pour Gilles et la nuit d'Hugo Claus, mise en scène par Christophe Sermet. On ira faire un tour au Marny pour Art Copy et enfin on ira parler de La Religieuse, un texte de Diderot mise en scène par
Daniel Skez
au Théâtre des Martyrs. Et enfin quelques annonces un peu allumées pour le week-end, workshop et des trucs très space. Ça, on en parlera en fin d'émission. Mais là, je me retourne, allez, hop, 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 au choix vers Nicolas qui a vu Le Réserviste.
Oui, oui, Le Réserviste qu'on avait vu en version courte il y a 2 ans au Festival XS. Et voilà, maintenant, on a la version complète par Antoine Lobin. Du côté du Théâtre de la Vie, c'est une histoire assez cocasse et un discours assez original. C'est un peu sur la vision du marché du travail qu'il nous offre ici. Et
mais une vision à l'envers, où le chômeur devient le héros de notre société.
Tout à fait, c'est ça. Il a décidé... en fait, parce qu'il est convaincu que la société a besoin du chômage pour fonctionner, parce que ça permet notamment, il l'explique, hein, de faire toute une pression sur les salaires, de les maintenir bas, comme il y a moins de concurrence, moins de travail, etc. etc. Et donc, il a dit, eh ben, si c'est comme ça, moi, je vais me mettre en réserve de la société, comme à l'armée, et si on a besoin de moi, on viendra me chercher.
Mmh. Et voilà un petit peu... Qui était une théorie de Karl Marx, il s'imprègne de ça dans le milieu capitaliste. Bien dans une société capitaliste.
Et donc, on a ce discours qui nous est amené. C'est un personnage, mais il y a 3 comédiens. Et toute la langue de Thomas Depreyck est ainsi dépersonnalisée. Et le personnage passe ainsi dans les 3 bouches des 3 comédiens. Alors, d'entrée de jeu, on est déjà un petit peu désarçonné par la mise en scène, puisque les spectateurs sont invités à s'affaler dans des poufs sur ce qui devait être normalement la scène. Et les comédiens vont alors jouer en escalier dans les gradins. Et ceux qui connaissent le Théâtre de la Vie savent que c'est assez vertigineux, justement. Et on a parfois peur pour les comédiens parce qu'ils ne cessent de sauter d'un endroit à l'autre et de quadriller vraiment toute cette tribune pour nous offrir ce texte.
D'ailleurs, dans mon souvenir, ce dispositif-là, avec les lignes blanches dans les gradins, ça évoquait très bien les fils du chômage. Je trouvais que c'était une belle image pour ça.
Et puis, c'est aussi les escaliers, c'est la société.
On l'ascenseur est plus haut, social.
L'ascenseur social. On monte, on descend. Et on est face à une langue très punchy, comme ça, de Thomas Depreyck, très crue parfois, parce qu'on est face à un délire, un vrai délire de ce gars qui va connaître bien toutes les âmes de la société moderne, que ce soit les administrations kafkaïennes. Il va chez Actiris et il va se disputer avec son conseiller emploi, quitte à lui foutre un pain. Enfin, ça va être vraiment quelque chose de délirant à ce niveau-là. Il veut, à un moment donné, c'est une sorte de parenthèse, et c'est Baptiste Ornain, l'un des 3 comédiens qui le joue. Il téléphone pour avoir une place pour un concert de Madonna, et là, ça va complètement délirer aussi, parce qu'il va s'en prendre à la standardiste de manière assez horrible. Mais voilà, c'est un beau moment aussi de ce spectacle qui vaut et pour son énergie, pour sa langue et pour son point de vue qui
et
est
son
assez
humour long. Aussi
et son humour évidemment voilà. Alors ce qu'il y a en plus dans cette version longue, c'est que Antoine Lobin décide de donner la parole au cours du spectacle à un expert des sciences humaines, sociologue, économiste, juriste, historien, pour qu'il nous donne son point de vue sur le marché du travail, un point de vue qui se veut souvent original. Alors c'est pas inintéressant. Sauf que moi, je trouve que ça casse un peu le rythme et ça dépend un petit peu du talent oratoire de l'intervenant. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un qui était très volubile. Je ne sais plus de mémoire comme ça. Mais c'est intéressant d'apporter ce langage scientifique. Et il est vraiment inséré dans la deuxième partie de ce spectacle. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir inversion du public et des comédiens également. Ils vont se retrouver au milieu de poufs et de boîtes de pizza éclatées. Enfin, on est dans le délire complet. On est dans une certaine joie de vivre, un certain contre-pied de la société qui fait plaisir à voir et une sorte de libération de la parole qui intervient ici.
Tout en ayant en arrière-fond une angoisse. C'est vraiment une espèce d'agité du bocal, un type complètement délirant sur scène. Une polyphonie à trois voix. Moi, je disais une polyphonie pour un glandeur. C'est vraiment donc le rythme fou. Thomas Desprez, il disait, bon, ce qui l'inspire beaucoup, c'est Rodrigo Garcia, une écriture décomplexée. Rodrigo Garcia, moi j'adore, je dis toujours, il insulte tout le temps le public, on est toujours des hijos de puta, il scande ses phrases comme ça. Ici aussi, il y a toujours le con. Ce qui est intéressant dans la polyphonie, c'est que, par exemple, il y a une voix qui va jouer le personnage, les deux autres vont le commenter, en même temps pour lui et en même temps pour le spectateur. Donc on a une espèce de récit, de théâtre-récit qui est savoureux. Moi, j'ai beaucoup aimé les interventions. Je trouve ça génial, l'idée d'Antoine Lobin, de mettre une intervention. Nous, on a eu Mathéo Alalouf, qui est spécialiste de l'emploi et du chômage. Et donc, il nous a traversé un peu l'historique du chômage, qui était passionnant. Et l'astuce est très bien faite. C'est qu'à un moment donné, le glandeur, bon, il est toujours devant sa télé et ses canettes de bière. Et à un moment donné, on tombe dans une émission de Tadei, parce qu'il y a le générique et c'est savoureux. Et le mec se plante et on est... Et alors, tout le long du spectacle, il y a un dynamisme fou. D'abord, les comédiens sont excellents, il y a une choralité trop forte.
Il y a Renaud Van Camp et Angèle Beau, en plus de Patty Sorna.
Et en plus, nous, on est installés dans... Et ce qui est, nous, à la première, il y avait un public intergénérationnel, parce qu'on a l'impression, quand on l'avait vu à XS, que ça parlait à notre génération, ici et maintenant. Et pourtant, les vieux aussi, qui ont connu, eux, le plein emploi, sont aussi interpellés par ce spectacle. Et c'est vraiment de la belle ouvrage, un beau duo, les comédiens...
Et une mise en scène assez... vertigineux, j'ai envie de dire, parce que quand ils sautent vraiment d'un coin à l'autre, on a peur pour eux, quoi. Voilà.
Et puis ça va à l'encontre des discours ambiants aussi de chasse aux sorcières. Quand on parle du chômage, ça fait un petit peu du bien de prendre de la hauteur par rapport à cette thématique et de l'humour.
Mais David Murdier aussi, à un moment donné, on reprend, c'est les artistes qui ont soit un statut d'artiste qui est mis en mal, ou soit chômeur, et qui expliquent la coulisse, à un moment donné, comment ça se passe, les entretiens de l'ONEM, le fonctionnaire ici qui n'en fout pas une, donc il y a un discours
on propose
un peu...
des emplois qui ne correspondent pas du tout au profil, enfin bref.
Et ce qui est juste, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'emploi, on sait que c'est des mauvais emplois, et en même temps, on vous dit, c'est pas grave, cherchez. Donc on est vraiment dans un truc schizophrénique.
Et on culpabilise surtout le chômeur, alors qu'on sait en effet qu'il n'y a pas de job.
C'est à voir donc jusqu'au 14 février du côté du Théâtre de la Vie, le réserviste d'Antoine Lobin, Thomas Desprez, www.théâtredelavie.be.
Et du réserviste, on part au Cartago d'Alendaes. Alors, Gilles et la nuit, Nicolas, on te redonne
encore
la parole. Vas-y, mais toi, tu l'as vraiment bien aimé, c'est donc à toi la parole.
Alors, Gilles et la nuit, c'est un texte d'Hugo Claus qui revient sur l'histoire de Gilles de Rais. Et c'est Gilles, d'ailleurs. Et Gilles et la nuit, pourquoi ? Parce qu'on va assister à son procès dans une obscurité, un obscurantisme assez fort. Gilles de Rais, pour la petite histoire, était le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc durant la guerre de Cent Ans. Et après ses faits d'armes, il a été condamné, notamment pour des crimes assez odieux sur les enfants, de la pédophilie. Et c'est d'ailleurs dans les mémoires qu'il est resté comme ça. Il a inspiré d'ailleurs Barbe Bleue par la suite. Bref, ce personnage historique est ici en fait convoqué devant un tribunal ecclésiastique. Mais dans le texte d'Hugo Claus, on va voir très vite que l'accusé va devenir accusateur de son propre tribunal et le procureur un peu de sa propre vie. Ce que Hugo Claus fait dans son texte, c'est qu'il apporte un certain mysticisme où on voit vraiment un personnage complètement perturbé, obnubilé par le fantôme de Jeanne d'Arc qui a été brûlée, évidemment, à Rennes. Et qui va vraiment essayer de retrouver son âme. Il veut vraiment retrouver son âme. Il sait ce qu'il a fait. Il sait que c'est pas bien. Il va l'avouer d'ailleurs. Mais il dit, moi qui étant fait pour la France, moi qui étant combattu, est-ce que il y a pas un moyen que l'on puisse me pardonner? J'ai pas eu une vie facile, etc., etc.
Il veut l'absolution pour aller au paradis. Et...
Évidemment, ça, c'est tout l'art obscurantiste médiéval qui est ici décrypté par Hugo Claus. C'est un projet mis en scène par Christophe Sermet, mais c'est Itzik Elbaz, l'interprète principal, qui avait envie d'incarner ce texte. Et Christophe Sermet l'installe dans donc ce grand hangar anderlechtois où le public est allé des deux côtés en latéral de la scène. Et on va voir cet homme perturbé faire les 100 pas et sans cesse se reprendre sur ses cruches de vin amer, comme il dit, qui lui brûle l'estomac. Et en plus, il y a l'intervention de Muriel Legrand qui joue en quelque sorte le spectre de Jeanne d'Arc en chantant et en intervenant par petites touches comme ça autour de la scène. On est dans une ambiance très feutrée, très lourde aussi à la fois, avec un homme en colère et qui est vraiment perturbé. On peut dire un peu que le fantôme de Jeanne d'Arc vient apaiser un peu les tourments de cet homme qui... On ne sait pas s'il a envie de continuer de vivre ou justement d'en finir avec cette folie. Moi, j'ai trouvé que et le lieu et la mise en scène amenaient vraiment de la force dans ce texte qui est une grande diatribe comme ça de la part de Gilles de Rais et un Itzik Elbaz très habité par son rôle.
Alors, Catherine et moi l'avons vu à la première. Catherine, la parole.
Moi par contre, j'ai ressenti une pièce très bavarde. Je me suis dit, tiens, si on avait vu un flamand jouer ceci, on aurait eu quelque chose de complètement charnel, halluciné. Et là, j'ai eu l'impression d'un comédien qui disait son texte extrêmement bien. Et il faut saluer cette performance-là, parce que c'est quand même, ça dure quoi, plus d'une heure, une heure et demie. Mais pour moi, c'était dilué dans cet espace magnifique, certes, mais qui, du coup, n'aide pas à se resserrer sur ce personnage, qui se perd un petit peu dans cet espace pour moi. Et donc, je me suis un peu ennuyée.
Faut dire un peu un mot pour les auditeurs, c'est que d'une représentation à l'autre, parfois on a l'impression de ne pas avoir vécu la même pièce. Donc ça montre aussi la fragilité des critiques, parce qu'on parle de la représentation qu'on a vue. Après, on a des critères d'analyse, de propos, de dramaturgie et tout. Donc Nicolas et plusieurs autres de nos collègues ont vraiment aimé. Moi, je l'ai vu avec Catherine à la première. C'est vraiment, j'ai piqué du nez de temps en temps. Le texte est ardu. Mais moi, il y a une espèce de pensée comme ça qui m'a turlupinée. J'avais lu ado la biographie de Gilles de Rais, on avait vu celle de Cassirs à Avignon, il faisait un diptyque avec Jeanne d'Arc, et on se dit, ça ne va pas à chaque fois, on prend la figure de Gilles de Rais, on en fait soit son procès, soit le propos, les crimes, et on ne va pas plus loin. Donc ici, vu que j'en ai vu quelques-uns, il y a quelque chose qui m'a manqué. En même temps, on reconnaît tous la performance de Itzik Elbaz, et c'est vrai que comme Catherine, on a l'impression que l'acteur est un peu dilué dans l'espace. Alors moi, ici, je ne sais pas si c'était bien ou pas, parce que je suis rentrée dans le spectacle, je suis sortie, mais je me dis, si on est en forme, parce que c'est un texte quand même ardu, on peut y trouver son bonheur.
Moi, ce qui m'a plu, notamment dans cette mise en espace, c'est qu'on est dans ce grand hangar en effet vide, et c'est un peu comme dans un grand Kafka, comme ça, où le personnage, on ne voit pas les juges, on les imagine, il y a juste une dizaine de chaises, comme ça, alignées, mais on le voit, il fait toujours d'ailleurs le même mouvement, hein, de gauche à droite pour le spectateur, mais d'avant en arrière pour lui, et je trouve justement que là, cet espace dessiné amène à se recentrer sur le personnage. Moi, je l'ai ressenti comme ça, voilà.
Mais c'est vrai, moi j'ai pensé comme Catherine, des fois on fantasme, hein, on refait des spectacles qui ne sont... Moi, je me suis dit, tiens, Joss de Pau avec Musique Lotte, peut-être il en aurait fait autre chose avec un travail graphique, parce que ça reste assez classique finalement, alors que Sermet nous a donné des choses beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus radicales, on va dire. Ici, ça reste...
Et on peut dire que c'est dépouillé.
Voilà, et ça reste quand même assez simple.
Il y a quand même un beau jeu sur la lumière, je trouve.
Mais... La lumière, la petite buée ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment, moi je me dis, avec le recul, quand on discute un peu en coulisses, on se dit que parfois il y a des représentations qui changent d'un tout au tout. Et alors, ce qui est, je ne sais pas si Catherine, des fois tu vis ça, même si on le voit dans la fatigue ou avec un détachement, on se dit qu'il y a quelque chose dans la pièce. Je ne sais pas si tu as ça des fois dans des spectacles où tu ne rentres pas complètement, mais tu reconnais qu'il y a quelque chose qui peut prendre...
Tout à fait. Ici, pour moi, c'était trop fantomatique.
Oh, c'est joli, ça, fantomatique. Voilà. En tout cas, Gilles et la nuit, une performance d'acteur, Itzik Elbaz.
Et c'est aussi à voir jusqu'au 14 février au Cartago d'Elenda Est, près de la gare de l'Ouest à Anderlecht, www.cartago-bxl.org. Peu de musique.
Musique.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Et vous emmène pour une autre histoire trouble, hein, la religieuse à voir au théâtre des martyrs que Catherine a vu pour nous.
La religieuse de Diderot, mise en scène par Daniel Skey, c'est une pièce qui nous interroge évidemment sur les fanatismes d'aujourd'hui. On entend beaucoup parler d'intégrisme et on oublie bien souvent que ce n'est pas du tout l'apanage de certaines religions islamiques, mais que la religion chrétienne, elle aussi, a eu ses dérives. C'est cela que raconte Diderot avec l'histoire d'une jeune femme qui est envoyée au couvent, pas du tout parce qu'elle a la vocation, et c'était souvent le cas à l'époque, mais parce que, au départ, croit-elle, elle est immariable, pas de parti assez intéressant, elle atterrit au couvent, et plus tard, elle apprendra que c'est en fait parce qu'elle est illégitime, c'est une fille illégitime, et que sa mère ainsi pense expier son péché de jeunesse en mettant cette fille du péché au couvent.
On vient de loin,
voilà.
On vient de loin.
Toujours est-il que cette jeune femme atterrit au couvent, prend le voile, mais finalement, contre son gré, elle va s'en rendre compte assez vite. Elle va vouloir renoncer à ses vœux, mais c'est trop tard. On ne lui laisse plus le choix. Et ça va être son combat pendant des années. Elle va tenter de dire que ses vœux ont été prononcés contre sa volonté, qu'elle fait aujourd'hui le choix de la vie et de la liberté. Et évidemment, en disant ce choix-là, elle provoque la colère de tout le couvent et de la mère supérieure, et tout le monde va se déchaîner contre elle et lui faire subir les pires humiliations possibles. Finalement, elle va perdre son procès, donc elle devra garder le voile, mais elle va réussir à être transférée dans un autre couvent où là l'attendront d'autres épreuves, puisque jeune fille séduisante, elle va rendre folle la mère supérieure qui va lui faire des avances sexuelles explicites. Elle, qui ne connaît pas encore la vie, ne saura pas trop comment réagir. Bon, je ne vais pas tout vous raconter non plus, sinon ça ne vaut plus la peine d'aller le voir. Mais ça raconte ça, ça raconte le fanatisme religieux d'un côté et le choix de la liberté et le choix de la réflexion aussi de l'autre et de l'amour.
Moi, j'avais lu le livre il y a très longtemps, j'ai encore le souvenir d'un livre violent. Il y a aussi une histoire d'amour, de lesbienne et tout, mais c'est surtout d'un livre violent. Est-ce que la pièce est violente ?
Non, mais c'est un petit peu la particularité de cette mise en scène. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose d'assez froid, finalement, que nous renvoie Daniel Skaez. Donc, c'est dans la petite salle des martyrs. Donc, c'est un dispositif très sobre avec une disposition quadrifrontale. Donc, on est tout autour de la scène. On est très près des comédiens, enfin, surtout de la comédienne, Dolores de Lao, qui joue cette jeune femme, qui le fait très bien d'ailleurs, mais tout ça reste très cérébral et pas très charnel, encore une fois. Et donc, je trouve qu'on reste un petit peu en surface, en particulier dans la deuxième partie. Alors moi, en plus, je l'ai vu avec des ados. Alors évidemment, la deuxième partie fait bien pouffer les jeunes, parce que deux femmes qui ont des comportements un petit peu sexuels, ils ont un petit peu de mal avec ça, et donc ça mettait tout le monde mal à l'aise, donc c'était une représentation un petit peu particulière. Mais malgré ça, je trouvais que ça n'avait rien de sulfureux ni de provoquant, mais c'est une belle pièce, et une pièce qui fait donc réfléchir par rapport à notre contexte actuel. La comédienne, à part ce côté un petit peu cérébral, le fait très bien. Elle évolue très bien entre la jeunesse et l'innocence du début. Et puis, peu à peu, son combat qui va s'affirmer. Elle va rester ferme, dure aussi face à toutes les épreuves. Donc, c'est un beau personnage. Voilà, moi, encore une fois, j'avais besoin de plus de chair.
Et donc, c'est une mise en scène très sobre, très minimaliste. Jeu de lumière, musique, où elle est seule à porter le texte.
C'est très sobre. Elle a simplement un petit pupitre où parfois, elle prend la plume et elle écrit à ses correspondants. Il ne se passe pas grand-chose. Ça manque peut-être un peu de rythme à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est une belle performance de comédienne.
C'est à voir au Théâtre des Martyrs.
Jusqu'au 14 février également, www.théâtredesmartyrs.be.
Alors après Gilles et la nuit et la religieuse, on retombe dans le travail Hard Copy, donc ça c'est toi Nicolas qui a vu Hard Copy.
Oui, c'est du côté du Théâtre Marny, dans le labo, et on est convié. On a l'impression au début d'être dans une salle d'échauffement avec des danseuses qui font leurs étirements, comme ça. Elles sont là en juste au corps, quatre femmes qui ne se ressemblent pas. Et puis tout d'un coup, elles vont toutes enfiler un tailleur rouge et une perruque noire et devenir quatre secrétaires d'une grande société. Voilà, les quatre mêmes bonnes femmes qui sont dans un bureau, dans une entreprise qui s'appelle Le Groupe, comme ça, une énorme entreprise. Alors, elles sont super amies, mais on voit tout de suite que c'est hyper focus. Et il se fait qu'un matin, donc elles se rencontrent à la machine à café, elles se font la bise, etc. Et l'une des quatre va avoir une remarque un peu maladroite, même. C'est un peu étonnant de voir les conséquences que ça va avoir parce que cette remarque est malgré tout assez drôle, mais elle va devenir ainsi le bouc émissaire dans ce groupe de femmes et va subir un harcèlement assez violent de la part de ses collègues. C'est un texte d'Isabelle Sorrent qui nous montre un petit peu comment la violence du quotidien peut s'immiscer dans les groupes d'amis, ou entre guillemets, ou les groupes de collègues, qu'une fois qu'on a trouvé le défaut de quelqu'un, on lui en trouve d'autres et qu'on n'arrête pas de lui faire remarquer, et que ceci, que cela, qu'on n'est plus dans la norme, que c'est difficile d'avoir son individualité dans ce genre de groupe et qu'il y a, malgré qu'on est en équipe, une certaine concurrence entre les différents collègues pour taper dans l'œil du patron, etc., décrocher les meilleures commandes, etc.
Comment on se met trois contre un, à un moment donné, ce phénomène de groupe qui est éternel, c'est pas qu'au boulot. Hein,
parce qu'on a l'impression qu'on va avoir des différentes configurations. Il y aura une des trois qui va essayer de faire de la médiation, comme ça, mais ça va toujours se retourner contre cette personne. Et on est dans une mise en scène d'Alexis von Stratum très géométrique, j'ai envie de dire. Quand ça s'installe dans ce bureau, on a une chorégraphie qui s'opère comme ça entre les quatre personnages. Et c'est comme un peu le ballet d'une photocopieuse, etc., etc. C'est assez une belle entrée en matière. Et puis, après, c'est surtout donc dans les échanges de ces personnages, on va assister à quelque chose de très cru. On a un texte parfois très très dur, des petites phrases comme ça, c'est la logique de la petite phrase qui fait mal, qui va se jouer entre ces quatre comédiennes ici interprétées, donc les quatre personnages, c'est Caroline Kempeners, Cachou Kirsch, Isabelle Rezzetti, Aurélie Vautrin-Ledan. On voit vraiment donc la difficulté du monde du travail d'aujourd'hui et je trouve que c'est un bel objet, et la méchanceté humaine.
Dès qu'on est en groupe, ça pète la moule.
La mesquinerie vraiment de tout ça. C'est un beau petit objet. Il y a vraiment une recherche aussi esthétique que sur la violence du texte également. J'ai passé un agréable moment. Il y a aussi une voix off comme ça qui place un peu le décor et qui met les personnages. C'est très chorégraphié en tout cas.
Ça ne va pas donner envie aux personnages du réserviste d'aller travailler s'ils voient ce genre de trucs nauséeux. À voir.
Donc, Hard Copy, et c'est à voir jusqu'au 28 février. Mais attention, ça se joue encore cette semaine. Ça s'interrompt la semaine prochaine et ça reprend après les congés de carnaval.
Donc ça, www.théâtremarny.com. Les quatre spectacles qu'on a vus, Le Réserviste, Gilles et la Nuit, Hard Copy, La Religieuse. Moi, je vous envoie dans trois annonces. Les spectacles qui ont lieu, deux, trois représentations, mais qui sont assez sympas et un peu alternatifs. Donc, il y a le CIFAS à Bruxelles. Le CIFAS est un centre de formation pour professionnels. Et ils prennent toujours un metteur en scène avec qui ils font des workshops, un metteur en scène prestigieux. Ici, tenez-vous bien, le 14 février, ils présentent les travaux de leur workshop sur l'amour. Et c'est Yves-Noël Genot, un performeur assez allumé qui fait ça. Et alors le titre s'appelle Cri et baise. Et il y a une bonne équipée dedans de comédiens. Comme c'est des professionnels, c'est des gens qui ont déjà un peu de bouteille. On retrouve Bouanga Pilipili, Jean Furs, Florence Ebeling, Gaëtan Rusquet, des gens qu'on voit dans des spectacles totalement différents et qui, ici, ils ont envie de se frotter à un metteur en scène le temps d'un workshop. Ça se passe à la Bellone. C'est gratuit, mais il faut réserver. Et la réservation, c'est cifas@cifas.be. C'est un stage qu'ils ont fait sur l'amour. Et donc, voilà, c'est le 14 février. Autre curiosité, c'est Ingrid Wantok-Rykowski qui fait 20 minutes de spectacle. Elle montre un peu un work in progress, donc ce n'est pas une création finie, mais elle montre une étape de travail. Et c'est intéressant, ça s'appelle Quatuor à corps. Et elle s'inspire du Quatuor à cordes, qui est un peu une micro-société comme ça de personnages. Et alors ici, elle dit, voilà, ce sont des moyens réduits, mais qui nécessitent un travail expressif très large. Donc elle va jouer sur des corps, et elle a l'habitude de ça, hein, très plastique, avec des corps disproportionnés sortant de l'ordinaire. C'est 20 minutes, et là aussi on retrouve des comédiens inattendus. On retrouve Claudio De Santos et Yvain Julliard dans cette petite forme de 20 minutes. Ça se fait aux Brigitines, à la chapelle des Brigitines. C'est à voir vendredi et samedi, 19h et 22h. Donc c'est intéressant, après un bar ou un café, d'aller à 22h voir cette curiosité au théâtre des Brigitines. Autre curiosité à Beaux-Arts. Alors Beaux-Arts, ils ont depuis quelques saisons, une saison internationale des metteurs en scène prestigieux. Ici, samedi, donc vendredi et samedi, c'est Alvis Hermanis, un invité déjà au Beaux-Arts. C'est un gars de Lettonie, un metteur en scène qui a travaillé aussi le mime, et il présente Sonia, qui est une pièce d'une auteure russe. Alors ce qui est intéressant, c'est que la trame, c'est Sonia est dans un appart à Leningrad, dans un intérieur années 40. C'est une femme solitaire et un jour, elle reçoit une lettre d'amour. Alors dit comme ça, oui, sauf que c'est sans parole. C'est le travail de mime. Et alors, pour donner une naïveté au rôle, pour pousser la naïveté, il a donné le rôle à un homme. Et donc, on voit un peu avec ses perruques et tout. Les photos sont très intéressantes. Et donc, c'est à voir ce vendredi et ce samedi au théâtre, aux Beaux-Arts.
Que de belles façons de passer la Saint-Valentin, dis donc.
Mais je trouve le cri et baise, là, les allumés du Cifas avec Yves Noël Genot, c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir des comédiens, ben, Florence Ebeling là-dedans, Gaëtan Rusquet, bon, lui, il est dans la performance. Donc c'est... Et puis, alors, faire l'effort de se déplacer pour un spectacle de 20 minutes, qui n'est pas une création d'une auteure qui est très singulière, je me dis, il y a à un moment donné des petites perles comme ça qu'on se refile un peu en samizdat, hein, un peu de bouche à oreille, quoi.
Moi, je vous conseille Visual Voices, dimanche à La Monnaie à 11h. C'est pour le jeune public, mais les adultes prennent un plaisir fou. C'est à chaque fois, c'est du cinéma d'avant-garde pour les enfants avec un thème différent. Et cette fois-ci, c'est sur la danse. Dance, 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 ça s'appelle.
Bah dites donc, il y a des théâtres qui osent, hein, qui osent certaines aventures radicales pour le spectateur. C'est tout bon pour Radio Campus. Osez, osez, bonne planche. On se retrouve à la semaine prochaine.
Bye bye. Conspiración.